Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, c'est déjà le 27e épisode de cette première saison. Merci de votre fidélité, merci de nous écrire régulièrement. Une Heure en Série, au cas où vous l'auriez oublié, c'est l'émission qui chaque semaine décrypte, analyse l'actualité des séries télé et vous sauve vos soirées séries télé, parce que oui, effectivement, il ne s'agit pas de rater quand même une soirée série avec l'abondance de titres qu'il y a aujourd'hui. Ce serait quand même dommage, mais nous sommes là, heureusement, Alain Phare dans la nuit, l'équipe d'Une Heure en Série, pour vous indiquer quoi regardez. Alors, cette semaine, dans l'actualité d'Une Heure en Série, Petit Meurtre en Famille et Désir d'Enfant dans Amour Fou sur Arte, Chasseur de Nazis et Bain de Sang dans Hunters sur Amazon Prime, et Représentation et Visibilité de la communauté LGBT avec Visible Out on Television sur Apple TV.
Une Heure en Série, Xavier Le Herpeur.
Et nos phares dans la nuit cette semaine sont Ariane Allard de Cosette et Positive. Bonjour Ariane. Christine Haas, elle a toujours tes notes, toujours bien préparé l'émission. Et évidemment Benoît Lagan.
Oui, je m'allume, je m'éteins, je mets le clignot aujourd'hui. Je suis un phare clignot dans la nuit.
Voilà, c'était une tentative d'humour un peu désespérée, un peu désespérante de Benoît Lagan que vous pouvez retrouver le vendredi dans la matinale de 5-7 de Mathilde Munoz. Vous osez ce genre de saillie humoristique?
À 5h du matin, avec elle.
Ça file plus droit. Une Heure en Série, je vous rappelle que donc mi-mars, nous aurons une émission qui sera consacrée à votre top 10, vous les auditeurs. Donc continuez à voter sur le site de l'émission en nous envoyant des mails. Le principe, c'est que nous aurons 10 titres, mais je vous invite à ne voter que pour une série française et une série non française pour que ce soit plus simple et peut-être aussi plus éclectique. Voilà. Et nous la décrypterons évidemment en plateau avec nos chroniqueuses et notre chroniqueur. Mais on va commencer tout de suite par le premier débat, Amour Fou, c'est un peu ce qui nous lie quand même autour de cette table. Une mini-série en 3 épisodes, diffusée depuis le jeudi 20 février sur Arte, mais toujours disponible évidemment sur Arte Replay. Il vous reste donc du temps pour savourer ce thriller machiavélique qui, à mon humble avis, n'est pas sans faire penser à Boileau-Narcejac et à Chabrol. Vous me direz bien évidemment, vous êtes des experts, moi pas. Rebecca est en proie à d'étranges cauchemars. Pourtant, tout va bien dans la vie qu'elle mène entre son cabinet médical et Romain, son mari, mais... vous le savez, les apparences sont souvent trompeuses. Un soir, le couple traverse la rue pour aller dîner chez Michael, le frère de Romain, un dilettante manipulateur, et Émilie, son instable et acariâtre petite amie. Une violente dispute ne tarde pas à éclater.
On peut pas laisser faire ça. On peut pas laisser Émilie sous l'emprise de Michael.
Sous l'emprise, t'exagères un petit peu.
Je pense que ton frère cogne Émilie, c'est pas la première fois.
Écoute, on a tous bu... ce soir.
T'as déjà levé la main sur moi, toi ?
Mais ça n'a rien à voir. C'est leur manière de fonctionner. Un soir, ils font l'amour comme des brutes et le lendemain, ils s'engueulent. C'est leur couple qui est comme ça.
Non, il y a plus que ça. Elle avait l'air terrifiée. Pas la première fois qu'il la frappait, j'en suis sûre.
C'est pas le genre de Mika.
Tu crois vraiment à ce que tu dis, là ?
Ça sert à rien d'insister, je te l'ai dit, ils se lèvent pas avant midi.
Eh ben, ils vont changer leurs habitudes. Je vais être sûre qu'Emilie va bien.
C'est quoi ce bordel, là ? Vous avez vu où il est ?
Je voudrais voir Emilie.
Quoi ?
Émilie ?
Calme pas, elle est pas là, Émilie.
Elle est où ?
Je sais, elle est partie faire des courses.
À cette heure-ci, ça m'étonnerait. Laisse-moi entrer.
Calme-toi. Rebecca est inquiète parce qu'on vous a entendu vous engueuler hier soir.
Et alors ? Ça vous donne le droit de débarquer chez moi comme ça, dès le matin ? Putain, mais vous prenez pour qui ? La police des couples ou quoi, là ?
Plus tard dans la nuit, Rebecca et Romain voient Michael traîner un corps et le hisser dans le coffre de sa voiture. Michael a-t-il tué sa petite amie dont plus personne n'a de nouvelles ? Point de départ d'un polar labyrinthique truffé de coups de théâtre et délicieusement amoral, si vous avez la bonne idée de regarder la série jusqu'au bout. Une série créée par Mathias Gokalp, qui avait signé au cinéma Rien de personnel en 2009 et qu'il a coécrite avec la romancière Ingrid Desjours. Un casting impeccable, il faut dire que quand on a Clotilde M, on part déjà quand même avec beaucoup d'avantages, et l'excellent Jérémy Régnier dont nous avons entendu les voix tout à l'heure. Alors, Christine Haas, cet amour fou, machiavélique et un peu ironique dans le titre, vous a-t-il séduit ?
Bah oui, tout à fait. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce tableau clinique un petit peu, avec des personnages à la Simenon dans un contexte provincial, vous le disiez un peu à la Chabrol, avec des résurgences du passé assez hitchcockienne. Tout ça est d'un sombre romantisme qui nous fait basculer donc dans un thriller domestique oppressant, qui va mélanger des blessures intimes, des non-dits, des secrets enfouis et la relation de couple va être observée à la loupe. La question étant, peut-on tout pardonner quand on aime à la folie ? Alors, la force du récit s'appuie sur un portrait assez réaliste du couple moderne qui bouscule les stéréotypes. Hein. C'est elle, médecin, brillante, charismatique, qui gagne l'argent. C'est lui, concessionnaire automobile, peu sûr de lui, qui rêve d'avoir un enfant. Par ailleurs, il y a une véritable dépendance entre les deux personnages. Elle est folle, mais elle fonctionne. Il est équilibré, mais constamment en situation d'échec. À ça, il faut quand même ajouter une certaine ambivalence dans leur parcours. Elle est maléfique, mais parfois hésitante. Il est dépressif, mais quand même assez résistant. Et donc, ils étaient faits pour se rencontrer de par leurs failles réciproques. Et un sentiment de fatalité va très vite peser sur cette œuvre noire qui nous entraîne dans les psychologies de la profondeur avec un ascendant évident sur son mari qu'elle va prendre et ne jamais perdre, tandis qu'il va exprimer en fait la démission, l'envoûtement finalement plus que la faiblesse. Donc c'est vrai que le personnage de Rebecca est un cadeau hein, pour une actrice comme Clotilde M. Comme toutes les psychopathes, elle est fascinante, brillante, calculatrice, etc. Elle fait tout pour assouvir sa vengeance, elle est rongée par un traumatisme d'enfance, mais en même temps elle suscite véritablement l'empathie du spectateur, car elle n'est pas que démoniaque. Elle se met parfois en danger, elle est sincère dans son besoin absolu de se réparer. Alors aussi le personnage du mari qui est la victime désignée, à la fois viril et vulnérable, mais qui a aussi ses secrets, est également un cadeau pour un acteur aussi subtil que Jérémy Régnier. Je ne parle pas du second couple qui est également parfaitement interprété et qui donne beaucoup de relief, de poésie dans un triangle amoureux qui va émerger. Et on se retrouve finalement dans une histoire qui a quelques invraisemblances, mais on s'amuse de la machination diabolique grâce aux effets de surprise, aux rebondissements, au style élégant, des images glaçantes et de musique d'un compositeur danois absolument synchrone avec la beauté de certaines scènes quand même assez mortifères.
Ariane, êtes-vous sur le même diapason, assez enthousiaste
oui, tout
que
à
notre
fait.
Camarade Christine.
Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas si je serai aussi complète que Christine, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. La première chose, tout à l'heure, vous parliez des références. Moi, j'aime bien l'idée que ce thriller, qui en fait fait remonter à la surface les troubles d'un passé qui ne passe pas, ça fait aussi remonter à la surface de la mémoire de ses spectateurs des tas de références, plus ou moins implicites. Vous avez parlé de Chabrol, il y a évidemment Hitchcock. C'est pas par hasard qu'elle s'appelle Rebecca, hein, qu'elle endosse ce personnage, parce que Rebecca, bien sûr, c'est Daphné du Maurier et c'est un film d'Hitchcock très fameux, très gothique. Donc tout de suite, immédiatement, ça fait projeter des images en nous. Hein, voilà. Et puis, il y a Fenêtre sur cour, parce qu'il y a des scènes très belles aussi, où elle observe, parce que le frère habite en face de la maison. Et donc ces scènes-là...
C'est vrai que je l'ai gardé dans mon résumé, parce que la référence est explicite.
Voilà,
absolument.
Et puis il y a aussi, pour moi, le plus beau film d'Hitchcock, qui est Sueur froide, cette espèce d'amour fou, bien sûr, et en même temps maladif, et en même temps, il y a quelque chose de psychopathe à l'intérieur de cet amour. Alors là, c'est pas une femme qui se dédouble, mais quand même, c'est une femme double. Voilà. Moi, j'ai aussi pensé à Patricia Highsmith. Vous évoquez Boileau Narcejac. Je trouve que Patricia Highsmith, à travers ses thrillers, elle a toujours interrogé notre rapport à la famille, au couple et à l'amour, et notamment à l'amour homosexuel, parce que c'est quand même quelque chose de très latent, et là, ça n'est pas latent, c'est assez clair. Et je trouve que cette référence-là fonctionne très très bien. Et puis, je voudrais juste dire un truc sur Clotilde N. D'abord, elle est très bien accompagnée, parce que les deux garçon. Il n'y a pas que Jérémy Régnier, il y a aussi Finnegan Oldfield que je trouve formidable.
Excellent comédien.
Alors Clotilde M, moi je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est à la fois un personnage de vamp et de femme fatale, mais elle ne le joue pas du tout d'une façon glamour, sensualisée, etc. Au contraire, elle apporte, je trouve, une façon de jouer ce genre de personnage qui est quand même très archétypal, une façon extrêmement moderne et nouvelle. Et d'ailleurs, le réalisateur ne la regarde jamais comme une vamp, mais comme une femme puissante et fêlée en même temps. Et je trouve qu'elle, vraiment pour moi, elle réinvente ce genre de femme maléfique, comme disait Christine, mais beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante que ça.
Alors, il nous reste une seule voix maintenant. L'accorderez-vous de manière favorable, bien évidemment, cher Benoît, à cette série?
Complètement. Alors, je rejoins tout ce qui vient d'être dit, avec en plus la force d'avoir dit tout ce que vous avez pu dire sans révéler quoi que ce soit.
Oui, là, on marche sur des œufs, parce que c'est compliqué.
Parce que c'est une mini-série. C'est une mini-série. Il n'y a que 3 épisodes. Ouais. Et effectivement, la référence à Rebecca, d'ailleurs, à un moment donné, il y a un personnage qui tend le livre. Hein, donc, on voit le livre Rebecca. Donc, c'est Hitchcock, c'est Chabrol, c'est Rebecca, le roman. Et le film.
C'est un peu diabolique quand même.
Mais c'est
aussi
une grande série. Moi, j'ai un problème souvent avec les mini-séries de 3 épisodes, parce que je trouve que parfois, les créateurs se plantent, parce qu'en fait, ils font des longs films de 3 heures.
C'est pas faux.
Alors que là, c'est vraiment une vraie série, avec la mécanique de série, avec toujours une mécanique de début qui nous positionne à un endroit du récit, pour ensuite tout détricoter pendant l'épisode, avec une surprise, alors plein de surprises tout au long de l'épisode, et puis une surprise à la fin qui fait qu'on a envie de voir l'épisode d'après, qui rabat toutes les cartes en permanence. C'est hyper malin, c'est hyper bien construit. Le suspense fonctionne parfaitement. Et vous citiez Hitchcock, moi j'ai pensé vraiment au Hitchcock même de la télévision, parce que ce qui est fort dans cette série, c'est que tout est dans les intérieurs, on est dans les maisons. Donc quand on regarde chez soi, on a forcément un voisin de l'autre côté de la rue, on a déjà forcément vécu la chose de fenêtre sur cour, forcément un petit peu, mais alors en plus avec la télévision, Hitchcock aimait filmer les intérieurs beaucoup dans sa série, et on sent que les créateurs de la série ont analysé tout ça et l'ont appliqué de façon extrêmement brillante, tout en nous évoquant une histoire qui, sans rien dire, vraiment surprend en permanence, en permanence, en permanence, au point que jusqu'au final, un peu ouvert, qui donc peut laisser supposer une suite alors que je pense qu'il n'y en aura pas. C'est vraiment une grande œuvre sérielle.
Eh bien, je suis entièrement d'accord avec vous. Amour fou, donc diffusé sur Arte le 20 février, mais disponible évidemment sur Arte TV. Précipitez-vous, voilà, si vous voulez vraiment passer une excellente soirée télé. On vous recommande. Benoît avait encore quelque chose à dire, bien évidemment.
Juste 3 prix quand même au Festival de Luchon, Festival de télévision. Prix de la meilleure série, prix de la meilleure actrice, prix du meilleur scénario. Donc voilà, c'est mérité.
Encore. Mais le bord de si mal.
Vous aurez reconnu cette voix inimitable, celle de Christine, Christine and the Queens, dans son tout nouveau single « People, I've been sad », la douleur de l'adolescence et de son infinie solitude. On aime beaucoup Christine and the Queens.
France Inter. Une heure en série.
Petite pépite inédite, je sais que c'est un moment un peu frustrant puisque je vais vous recommander une série qui n'est pas encore diffusée en France, mais nous pouvons espérer qu'elle le soit rapidement. La série s'intitule Briar Patch, elle est diffusée sur USA Network depuis le 6 février. USA Network, pour mémoire, c'est The Sinner and Mr. Robot. C'est quand même pas mal comme carte de visite, une série écrite par Andy Greenwald qui avait travaillé sur Légion. Superbe série, Légion de super-héros, enfin faussement super-héros. Elle est produite par Sam Esmail, auquel nous devons Mr. Robot justement, et Homecoming dont nous parlait la semaine dernière Isabelle Danel. Dans une ville du Texas baignant dans une chaleur suffocante et envahie par des animaux sauvages, après que quelqu'un eut la mauvaise idée d'ouvrir les portes du zoo local, une jeune investigatrice noire, travaillant pour le Sénat, vient enquêter sur la mort brutale de sa sœur, sœur qui bossait pour le bureau du shérif et dont la voiture a été soufflée par une bombe. Impassible et froide, visiblement peu ravie de revenir dans un village natal où elle n'avait connu que racisme et ostracisme, notre héroïne se voit confier une autre enquête en plus de sa quête personnelle, enquête qui l'amène sur la trace de politiciens corrompus et surtout d'un ancien boyfriend connu également pour être une figure du trafic de drogue local. Une adaptation prometteuse du roman Onde de choc signé Rostoma est paru chez nous dans la collection Série Noire, filmée dans un scope absolument magnifique. Briar Patch joue à la fois des codes du film noir écrasé de soleil et d'un western mélancolique, le tout saupoudré d'un soupçon d'étrangeté à la David Lynch. Bref, déjà, on a envie d'y aller. Mais la série vaut surtout pour son ambiance pesante, son humour à froid et de savoureux dialogues qui s'achèvent régulièrement dans un absurde inattendu. L'ultime réussite de la série réside dans sa distribution, en tête de laquelle on retrouve l'excellente Rosario Dawson qui a interprété l'infirmière Claire Temple dans les séries Luke Cage et Iron Fist sur Netflix, ainsi que le toujours impeccable et génial Alan Cumming qu'on a pu voir récemment dans Instinct et qui interprète ici un psychopathe en costume trois pièces. Voilà, ça s'appelle Briar Patch, c'est sur USA Network depuis le 6 février et, espérons-le, bientôt en débat dans une heure en série. Une heure en série, donc, sur France Inter, avec toujours Ariane Allard, Christine Haas et Benoît Lagan. Et il est temps de passer au deuxième débat, Hunters, une série très attendue au moins pour son casting. 10 épisodes disponibles sur Amazon Prime depuis le 21 février. Petite précaution, à l'attention de nos auditeurs, nous n'avons vu que les 3 premiers épisodes. La chaîne ne nous a pas offert d'autres épisodes que cela. Nous sommes en 1977. Tout commence par une bucolique garden party qui s'achève dans un bain de sang après que l'une des invitées a reconnu son bourreau lorsqu'elle était internée en camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. À l'autre bout du pays, en essayant de découvrir l'auteur du meurtre de sa grand-mère, un jeune garçon new-yorkais croise la route d'un groupe de justiciers, une sorte d'agence touriste spécialisée dans l'élite. L'élimination des nazis ayant trouvé refuge aux États-Unis après la guerre. Une vérité fort embarrassante que va mettre également à jour une jeune flic black.
Depuis la nuit des temps, les gens comme nous ont été rabaissés, exterminés. Mais plus maintenant. Le mal est parmi nous. Et il faut vous rappeler qu'il commence d'abord par une minuscule tâche. Mais elle grandit à l'intérieur d'eux et devient un fléau. Et on ne découvre ce mal que quand il frappe. C'est donc aujourd'hui qu'il faut agir avant que tout ce que nous chérissons sur cette terre ne soit détruit. Ce n'est pas un assassinat, c'est une mitzvah. Que la chasse commence.
Une série à l'humour citrique, pour ne pas dire cynique, flirtant parfois avec un rien de mauvais goût et valorisant un peu trop à mon humble avis, la discutable loi du talion, un jeu de massacre que n'aurait pas renié Quentin Tarantino, mais fort heureusement produite par Jordan Peele, l'auteur de Get Out et de The Twilight Zone pour la télévision, écrite par David Vail. C'est à peu près, j'ai pas trouvé de référence, je crois que c'est vraiment une de ses premières œuvres. Je parle sous votre autorité, cher Benoît, avec au casting Al Pacino, Lena Olin, qui est absolument géniale, en colonel SS. Bon, je sais que c'est pas très politiquement correct de dire cela, mais Lena Olin, qu'on avait vu récemment dans Alias et dans la série Riviera. Et puis Logan Lerman, qu'on avait découvert sous les traits de Percy Jackson au cinéma il y a quelques années, dans le rôle donc de ce néophyte exécuteur. Alors, qui va commencer, Ariane Allard?
Oui, alors je suis assez partagée sur cette série.
C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
Voilà, donc en même temps, pourquoi pas, je trouve que la matière est très hybride, ce qui en soi n'est pas forcément un défaut, puisque je trouve que les formes impures sont souvent les plus belles. Là, en l'occurrence, il mixe deux choses, c'est-à-dire c'est à la fois un drame historique assez sombre, hein, puisque c'est quand même une chasse aux nazis, dans le New York de la fin des années 70, et c'est une comédie. Alors évidemment, quand je dis ça, cette hybridation-là, tout le monde pense à qui? Tout le monde pense à Tarantino, bien sûr.
Hélas.
Enfin, je sais pas si c'est hélas, parce que c'est hélas pour, en tout cas, la série. Puisque, évidemment, ça utilise ce même ton et cette même couleur, je dirais, un peu pop et très grotesque. Le problème, c'est que ça marche assez bien chez Tarantino, où on peut, en tout cas, trouver que c'est drôle. Là, je trouve qu'il y a aucun moment, moi, j'ai trouvé ça drôle du tout. Je pense que j'ai été gênée, comme vous, Xavier, par une apologie, vraiment, non seulement de la vengeance, mais de la violence. Et il y a quelque chose qui me gêne, c'est-à-dire que c'est un groupe de pieds nickelés, en fait, qui reprend les mêmes méthodes ou quasiment que leur bourreau.
On a une bonne sœur, et on a un clone de Pam Grier, enfin une espèce de représentation un peu archétypale,
c'est-à-dire c'est un peu Village People, mais version pieds nickelés vengeur.
Ça aurait été bien.
Voilà. Et puis en plus de ça, je trouve que l'alchimie entre les personnages et d'ailleurs aussi entre certains acteurs ne fonctionne pas très bien. Donc ça, ce sont mes réserves. Dis donc, le premier épisode, on plonge parce qu'il y a une espèce de magnétisme. Et puis moi, j'aime aussi ces années 70. Et puis j'ai envie de voir Pacino. Il y a quand même une dernière chose qui m'a vraiment gênée. C'est quand même la représentation de la Shoah, puisqu'on parle de ça quand même du début jusqu'à la fin. On a des scènes qui se passent dans les camps de la mort, hein, parce que c'est pas seulement des camps de concentration, c'est des camps d'extermination. On a fait beaucoup de reproches. Moi, je me souviens au film de Spielberg, La Liste de Schindler. Mais là, c'est encore bien pire, quoi. C'est-à-dire que les vêtements, les physiques, l'utilisation de la musique, tout ça est quand même très gênant, sachant qu'il y a eu quand même des antécédents. Je trouve qu'ils auraient pu être quand même un peu vigilants là-dessus.
Benoît Lagarde.
Alors, je suis d'accord effectivement sur ce dernier point, c'est-à-dire que la Shoah est traitée de la même manière que le reste, ouais, dans des couleurs pop, dans un univers pop. Du coup, ça a quelque chose d'un peu étrange. Ensuite, l'histoire de la violence qui est là tout au long des épisodes que l'on a vu et qui renvoie à Tarantino, moi, de toute façon, me gêne aussi, au fond. En fait, tout cet univers me gêne, c'est-à-dire que je regarderai ça dans une bande dessinée, ça m'amuserait sur quelques pages, dans un film de Tarantino, pourquoi pas quand ça dure 2 heures, sur une série, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que tout ce que vous disiez sur l'apologie de la vengeance, etc., etc., ben c'est la série qui va porter ça, en fait. À partir du moment où il y a une récurrence à buter du nazi en permanence, en permanence, en permanence, on finit par du coup, trouver que plus rien ne vaut. Tout se mélange, c'est une espèce de gloubi-boulga et qui, moi, me gêne fondamentalement. Alors, là où la série, je la sauve un petit peu et j'y trouve la touche de Jordan Peele sans doute à cet endroit-là, c'est qu'il arrive malgré tout par moment à nous émouvoir dans tout cet univers, surtout dans le premier épisode notamment, dans cet univers pop, coloré, sursanglant. À ces moments-là, ça devient intéressant. Moi, je trouve que... Alors, on a vu que 3 épisodes, on ne sait pas comment ça évolue, bien évidemment. Si tout est à l'aune de ce qu'on a vu, alors c'est vraiment pas très bon.
Puis il y a cette hypocrisie qui consiste à dire, évidemment, on tue des nazis, on aimerait bien pas les tuer, les traduire en justice, mais en même temps, ils font rien pour. C'est quand même, au bout du 3e épisode, je trouve une excuse un peu bidon et fortement hypocrite. Christine Haas.
Non, mais c'est vrai qu'ils les tuent pas parce qu'ils expliquent quand même que beaucoup ayant échappé aux forces de l'ordre grâce à l'aide du gouvernement américain et s'étant fondus dans la société, effectivement, ils vont les récupérer et ils se cassent pas la tête pour les ramener devant la justice des hommes. Bon, c'est vrai que c'est un peu contestable. Limite. Mais on est véritablement dans cette série, dans l'univers parano des années 70. Hein, c'est-à-dire que entre le drame historique, la comédie décalée, qui donc est parfois grotesque, et comme c'est vraiment l'univers de Jordan pile, comme pour son film Get Out, qui parlait de racisme, en fait, il poursuit sa thérapie de choc et brocard de l'antisémitisme, avec un mélange d'outrance, de réalisme et d'horreur, avec un ton sarcastique, des moments presque surréalistes, hein, quand tout le monde danse Staying Alive, etc. Et puis, même le dialogue est coloré d'insultes assez étonnantes. On entend Al Pacino parler à une vieille dame en la traitant de putain de nazi. Enfin, c'est à la fois une comédie acide, un thriller et une charge politique sur l'Amérique de Trump. Tout ça à travers un récit grinçant et anxiogène où finalement le dérèglement des convenances est plutôt bien orchestré avec des moments émouvants, par exemple comme le portrait en héroïne de la grand-mère qui va apparaître progressivement, qui ça a été véritablement touchant. Et donc au fur et à mesure de la narration, il fait monter la pression, il apporte une bonne dose de monstruosité, c'est vrai, pour appuyer sa dénonciation. Et on peut être choqué par les scènes d'humiliation et de torture dans les camps de concentration. Ça, c'est vrai qu'il y a des moments extrêmement pénibles et on comprend pas très bien pourquoi il va aussi loin. La question qui se pose, finalement, c'est est-ce qu'on peut évoquer les heures les plus sombres du XXe siècle sur un mode autre que sérieux?
C'est une vraie question. Est-ce que, en même temps, c'est une série américaine? On sait quand même la peut-être une mémoire, en tout cas de connaissances historiques du peuple américain. Est-ce que c'est pas le moment, ça n'est pas nécessairement bien fait, mais de rappeler ce qu'ont été les horreurs quand même du régime nazi, puisque une jeune génération les ignore. Et est-ce que les inclure dans une série pour adolescents, en tout cas pour public un tout petit peu jeune, n'est pas une bonne idée?
Peut-être. Moi, j'ai des doutes sur la façon dont ça va être perçu. Tout ce que Christine vient de dire, je suis d'accord sur l'objet même, sur l'idée même de départ, sans doute, de tout ce qu'ils veulent raconter. Le problème, c'est que c'est tellement rempli de choses visuelles qui viennent parasiter pour moi ce discours. Et est-ce que ça va être bien entendu ou est-ce que ça va être pris comme un énième jeu, quelque chose de ludique autour de cet univers? Moi, c'est ça que les questions que je me pose après avoir vu ces trois épisodes.
C'était Hunter sur Amazon Prime depuis le 21 février. Et encore une fois, nous n'avions vu que les trois premiers de ces 10 épisodes.
Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one of these days we'll all get by. Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil trying to call your line, shit, I always shine. Even when it light dim. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. It's a flex, just a bit. Let me talk my shit. Say my head got big. Yeah, well, listen, man, world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah.
old, but it never go away.
De Mac Miller, extrait de Circle, qui est un album posthume, puisque ce rappeur, hélas, nous a quittés en 2018.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment de l'effet miroir, où la télévision regarde vers son passé, accompagnée par la bienveillance et l'intelligence, et la pertinence
n'en rajoutez
de Benoît
pas, n'en rajoutez pas.
Non mais votre chèque ce matin était quand même assez conséquent, donc je me dois de vous rendre cette politesse. Et pour l'effet miroir, cette semaine, direction San Francisco, et la vie de cinq enfants Salinger.
C'est ça.
Est-ce que ça sentirait pas un peu la vie à cinq?
Tout à fait, Xavier, l'autre soir, quand vous avez évoqué dans votre pépite inédite le reboot de la série Party of Five, vous m'avez titillé. Oui.
Pas de ça entre nous.
J'ai eu terriblement...
Votre épouse écoute.
Voilà. J'ai eu terriblement envie de vous parler ce soir donc de La Vie à 5, mais la version donc initiale de Party of Five, cette série qui a marqué la fin des années 90, hein, une décennie quand même riche en termes de créativité. Faut se souvenir qu'après les années 80 et l'hyper créativité des networks qui ont permis à de nombreux créateurs de pondre le pire comme le meilleur en termes de série, les chaînes gratuites confirment dans les années 90 qu'elles sont mûres pour défendre sur leur antenne des œuvres grand public, plus complexe qu'il n'y paraît et très abouti. Alors ça donne bien évidemment dans le monde médical urgence, dans le monde policier NYPD Blue et dans le genre du drama familial La Vie à 5. Et qui s'avère finalement beaucoup plus complexe que ce qu'on avait vu jusque-là. C'est une sorte de This Is Us, finalement, des 90s. Mais en France, c'est M6, qui n'est encore qu'une chaîne qui monte, qui a besoin donc de beaucoup de séries pour combler les trous de sa grille en journée, et en particulier le samedi, entre le Hit Machine de Charlie et Lulu et Fan 2 de Séverine Ferrer, qui décide de diffuser cette petite série sans prétention, dont La Vie à 5, sans vraiment comprendre qu'en fait, elle a entre les mains une grande série. Et ceux qui étaient devant le poste, eux, l'avaient bien saisi. Ils se souviennent encore de ce générique.
Même moi je regarde.
Eh oui. Même vous Ariane, vous regardez.
Et cette chanson qui fait écho parfaitement à son époque, elle fait même penser un peu au générique de Friends, par
Absolument,
exemple.
Absolument, on est d'accord.
Et elle colle surtout à l'esprit de liberté qui est à l'œuvre dans cette série. La Vie à 5, c'est l'histoire des enfants Salinger, qui suite à l'accident mortel des parents, donc le fils aîné majeur, accepte, un peu forcé par le cadet et la cadette, à devenir le tuteur de ses frères et sœurs, qui eux sont encore mineurs. Une situation qui offre une multitude d'entrées possibles à des situations plus ou moins dramatiques. L'aîné donc est officiellement adulte, mais l'est-il vraiment ? Le cadet semble plus sérieux, mais peut-il vraiment jouer au grand ? La cadette, très proche en âge du second, aimerait aussi gagner en force, certes, mais est-ce suffisant pour continuer à grandir quand on doit faire face au deuil et à la disparition brutale de ses parents ?
Donc on l'a compris, La Vie à 5, une série familiale d'apprentissage, mais pas uniquement.
Oui, parce que la grande force de La Vie à 5, c'est d'être certes donc ce récit d'apprentissage, mais surtout une histoire d'émancipation, puisque chaque enfant Salinger apprend à prendre son indépendance, mais tout en questionnant, en creux, la normalité de la vie familiale américaine traditionnelle. Dans La Vie à 5, les jeunes ados Salinger sont libres, adultes avant l'heure, par la force des choses. Ils ne s'interdisent en rien de vivre, au contraire, toutes les expériences. Les Salinger se débarrassent au fond, juste comme ça, sans le dire, des carcans imposés par la norme, moyen de vivre ses rêves, ses désirs, sa sexualité, comme ils l'entendent. Et que l'action se passe à San Francisco, l'une des villes les plus progressistes des États-Unis, ça a du sens. Ici, les filles Salinger s'imposent non pas comme des mères de substitution, mais tout simplement pour faire jeu égal avec leurs frères, et quand la Benjamine, jeune prodige du violon, a besoin de réconfort et d'une présence adulte, elle le trouve auprès de son professeur de violon homosexuel, parent de substitution. La Vie à 5 est donc à revoir pour ce qu'elle est et restera une ode à l'émancipation et à toutes les libertés. Une série qui parlait tout ça sur la Fox, il y a déjà 25 ans, sur une télé gratuite américaine.
Merci Benoît pour cet excellent effet miroir que vous pouvez réécouter évidemment en podcast sur le site de l'émission. Dernier débat pour aujourd'hui, Visible Out on Television, une série documentaire en 5 épisodes, disponible depuis le 14 février sur Apple TV. La télé regarde la télé dans cette remarquable série documentaire qui remonte 70 ans de l'histoire de la communauté LGBTQ, vue à travers le petit écran américain.
I told the executive producers I wanted to come out. It became bigger than any of us ever anticipated.
This was the coming out moment for the movement on national television. This was the time they first saw us.
Something about being on television makes people see you as part of our culture.
I didn't realize that I was the revolution that I was waiting for.
Construite à partir d'images d'archives et commentée par des personnalités de la télé ouvertement gay, bi, lesbienne ou trans et faisant partie de l'actuel panorama de la télévision américaine en tant qu'acteur, actrice, producteur, productrice, scénariste, journaliste, Visible raconte l'évolution de la visibilité, donc de cette communauté à travers les séries, les talk shows, les documentaires et les reportages, ainsi que le pouvoir unique en son genre du petit écran en termes d'identification. Comment désormais, aujourd'hui, enfin, les jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans peuvent se retrouver dans les séries du moment, preuve s'il en fallait de l'importance sociétale de la série télé, ou comment la petite lucarne en parallèle des luttes, des manifestations et des avancées politiques a ouvert les yeux et sensibilisé les Américains à cette cause, sans hélas vaincre complètement l'homophobie encore tenace. On se souvient récemment de la tragédie d'Orlando en juin 2016. Beaucoup de combats menés, pas mal de victoires remportées, mais encore énormément de batailles à livrer. Une série produite par l'actrice humoriste Wanda Sykes et l'acteur Wilson Cruz, que l'on connaît pour de nombreux rôles, mais qui avait été révélé par celui très proche de lui, évidemment, il le reconnaît, de Ricky dans Angela, 15 ans. Qui commence ? Allez, Benoît, notre minorité visible.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé, c'est pas étonnant, c'est l'effet miroir en série documentaire, donc j'adore ça forcément, même si je trouve la réalisation du documentaire, seul point négatif, hein, de mon avis, sur la série, somme toute assez classique, on est vraiment dans le documentaire comme savent le faire les Américains, donc c'est très très simple, des images d'archives et des témoignages face caméra, et puis voilà, et on alterne comme ça, donc il n'y a aucune invention en termes d'écriture documentaire. Voilà. À part ça, c'est vachement bien comme documentaire, notamment je pense que c'est important pour tous les sériephiles de voir ce documentaire, non seulement pour voir que la lutte LGBT a été longue à la télévision, mais aussi pour voir que la télévision, ça se construit toujours étape par étape, brique par brique, et que vu que ça arrive à la maison, et qu'on regarde les séries à la maison, parfois, juste dans une série, mettre un personnage, même qu'il ne vient que trois fois dans une saison, c'est déjà une avancée. Et on voit comment petit à petit, la télévision avance. Ça, c'est passionnant à voir. C'est passionnant parce qu'on y apprend des choses. Je ne savais pas que Raymond Burr, l'homme de fer, Perry Mason était gay.
Pareil, je suis tombé de mon siège.
Voilà, donc ça, c'est pour le côté génial. Pour le côté, j'ai pas compris pourquoi ils évoquent pas les mystères de l'Ouest aussi dans la série documentaire. Mais bon, hein, c'est pas grave, hein, c'est comme ça.
Après, ils sont d'accord avec moi, ils pensent que Kate Jackson, en tout cas le personnage de Sabrina qu'elle interprétait dans Charlie's Angel, était effectivement attiré par les femmes, et ça j'en suis intimement convaincu.
Mais ce qui m'a le plus plu finalement, c'est ce qui est l'épisode le plus ancien, parce que finalement plus on avance dans le récit, plus on connaît les références, on voit. Mais là, pour tous ceux qui ne savent pas qui était Norman Lear, par exemple, le créateur des grandes sitcoms des années 70, c'est étonnant. C'est celui qui crée dans All in the Family, cette série dont on parle beaucoup dans le premier épisode de ce documentaire, ou encore les Jefferson, et de voir comment cet homme arrive à imposer sur le petit écran grâce à la sitcom, parce que dans les années 70, c'est vraiment la sitcom qui bouleverse les choses étape après étape. Voilà, c'est vraiment intéressant, c'est puissant, et puis voir Wilson Cruz, que vous citiez, qui est dans Angela, 15 ans, avec ce rôle de Ricky, touchant, et de le voir producteur et présent et témoignant dans ce documentaire, c'est aussi vraiment très chouette.
Le troisième épisode aussi sur le sida, sur l'avènement de la tragédie, sur la manière dont les rares petites avancées vont connaître malheureusement un effet de recul, est assez passionnant. Ariane.
Oui, je voulais juste revenir sur 5 secondes sur ces premiers épisodes que moi j'ai trouvé les plus, enfin pour moi c'est vraiment les plus émouvants, parce que enfin je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas alors que dans les années 50 et 60, c'était une époque qui était quand même, en tout cas aux États-Unis, un pétri de préjugés, d'ignorance et de stigmatisation, et on voit que les personnes gays à la télé sont au mieux considérés comme des spécimens, des curiosités et surtout comme des personnes malades. Et je pense que c'est bien aussi de se souvenir de ça, quoi. Moi, ça, je dois dire que moi, ça m'a bouleversée vraiment de voir et de voir les témoignages par rapport à ça. C'est quand même extrêmement touchant. Alors, Benoît parlait de l'écriture documentaire. C'est vrai qu'il y a une petite musique un petit peu énervante et tire-larme tout le long qui fonctionne. Hein. La preuve, c'est que moi, ça m'a beaucoup émue. Mais c'est pas que ça. Faut vraiment dépasser ça. Voilà. Après, ce que je trouve très intéressant dans cette série documentaire, et ça continue tout le long, c'est qu'il y a quand même un rapport, je dirais, je t'aime moi non plus, entre la télé et la communauté LGBT, qui est vraiment super intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien comment cette communauté infiltre difficilement, douloureusement les programmes et parvient petit à petit à changer la modification de leur représentation. Mais on voit bien aussi quel bénéfice la télé, qui est quand même à la base plutôt conservatrice, voire réactionnaire, en tout cas aux États-Unis, profite de ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'elle se sert et elle met en scène tout ça parce qu'elle voit bien qu'à un moment donné, cette communauté devient de plus en plus visible, politiquement notamment, et grâce, c'est horrible à dire, mais grâce aux années SIDA, hein, et aux luttes qui se sont agrégées à ces années-là. Et je trouve ça très intéressant de voir cet effet balancier et presque cet effet gagnant-gagnant, pour l'un comme pour l'autre. Mais c'est vrai que ça reste quand même beaucoup de choses douloureuses, quand même, beaucoup.
Christine Haas.
Moi, je suis globalement totalement d'accord avec vous. Hein. C'est vrai qu'on se souvient d'un long métrage, par exemple, qui s'appelait The Celluloid Closet, ouais, qui était sorti en 1995, qui évoquait l'homosexualité à travers 100 ans de cinéma hollywoodien. Et en fait, Visible nous propose le même parcours de 70 ans à la télévision, hein, dans toute l'histoire des représentations du mouvement LGBT, ce afin d'observer les changements culturels et sociaux. Moi, il y a des moments qui sont profondément émouvants pour moi, comme le coming out d'Ellen DeGeneres, qui vraiment a fait basculer les choses, l'arrivée de RuPaul qui aussi a continué. Donc on voit comment la double vie de Raymond Burr, l'homme de fer, va faire avancer le parcours d'Ellen DeGeneres, va paver la route de Will and Grace, qui va paver la route de Modern Family. Tout c'est ça avance les uns avec les autres. Et le grand moment, la grande différence, ça va être par exemple le traitement par la télévision entre Stonewall, c'est-à-dire les émeutes qui ont eu lieu à Greenwich Village en 69.
Il n'y a pas d'image, il n'y a que des photos.
La législation interdit d'évoquer de manière positive les homosexuels. Et la fusillade du Club Pulse à Orlando en 2016, qui est complètement prise en charge de manière personnelle et bouleversante par Anderson Cooper et Rachel Maddow, qui sont tous les deux très grands journalistes homosexuels, ouvertement, et qui se chargent de cette histoire et qui en font quelque chose de totalement bouleversant. Donc il y a d'autres moments totalement fascinants qui nous montrent l'ignorance et les préjugés ambiants, comme par exemple des personnalités LGBT qui racontent comment elles sont présentées comme des curiosités. On entend des psychiatres qui les comparent l'homosexualité à une maladie mentale, incurable, comment ils disent que pour l'époque, l'homosexualité est plus grave que l'adultère ou la prostitution. On découvre des filles qui sont invitées à des talk-shows sur le handicap et qui se retrouvent face à un sourd et quelqu'un qui a...
Une lesbienne qui a
une sclérose en plaques. C'est absolument étonnant ce qui s'y passe. Et on découvre aussi l'impact des personnalités qui progressivement ne jouent pas un rôle mais se contentent d'être eux-mêmes. Comme par exemple Adam Lambert qui va remporter American Idol tout en revendiquant son homosexualité. On voit aussi Christine Jorgensen, la première trans, qui va se présenter à la télévision publiquement après son opération, bien avant Caitlyn Jenner. On voit René Richard, première athlète trans. Tous ces moments comme ça qui arrivent progressivement à la télévision, tout ça pourquoi ? Pour qu'on arrive au moment où les LGBT auront enfin le droit de n'être qu'ordinaire, c'est-à-dire plus besoin d'évoquer leurs divergences, de sortir de la norme, ils seront juste eux-mêmes.
Visible Out on Television, série documentaire en 5 épisodes que nous vous recommandons fortement, disponible depuis le 14 février sur Apple TV.
I feel so lonely when you're up getting down. So I'm feeling alone when I hear the steps.
I Don't Feel Like Dancing. Les Sister Sisters, bien sûr, en 2006, qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus? L'album Tada, on peut pas faire mieux dans le registre hit queer et culte.
France Inter. Une heure en série.
Et le conseil littéraire directement en diapason, en écho à la série dont nous venons de parler, Visible Out on Television, c'est Joli, Joli Monstre de Julien Dufresne-Lamy, paru chez Belfond. Le livre est sorti en septembre. Nous sommes à New York dans les années 80. James, jeune noir homosexuel le jour, se transforme la nuit venue en Lady Prudence. Un peu comme vous d'ailleurs, Benoît, hein, si mes souvenirs sont bons. Une flamboyante et merveilleuse et exquise drag queen, la meilleure, affirme-t-elle, la quintessence d'une féminité réinventée en vous. Extatique, unique. Depuis ses débuts entre prostitution et arrière-salle de clubs miteux, elle raconte son ascension, la mode du voguing, les soirées où l'on croise alors Madonna, Keith Haring ainsi que RuPaul, les bals du vendredi soir où s'affrontent solidaires et ennemis jurés les plus belles drag queens de la ville. Celles et ceux qui connaissent l'excellente série Pose reconnaîtront ce monde interlope, féerique, qui se maquille, danse et sourit outrageusement pour oublier que dehors, tous les rejettent, y compris certains gays qui voudraient une image plus respectable de la communauté LGBT de l'époque. Et puis arrive le sida qui emporte les amis, les amants, dévaste tout sur son passage et devant lequel il faut plus que jamais faire sublime figure, une figure fardée, outrancière et séductrice. Ce récit, Lady Prudence le livre 30 ans plus tard à Victoire, un jeune latino, père de famille, qui se rêve lui aussi en femme d'une nuit magique, deux époques, deux regards sur la différence, les mentalités ont heureusement évolué, mais demeure la même urgence de se révéler et de s'émanciper. Un magnifique roman de transmission et d'adoubement, porté par une écriture sans fioriture, resserrée sans être sèche, sans gras, composée de phrases courtes qui confèrent au livre une magnifique pulsation, un style qui ressemble à la détermination de son héroïne. Pas question de regarder en arrière, toujours devant, une écriture qui dit l'urgence vitale d'être ce que l'on est vraiment pour ne pas crever. Quatrième roman d'un auteur à suivre et dont ce joli, joli monstre atteste d'un talent indéniable. Je vous rappelle le titre, Joli, joli monstre de Julien Dufresne-Lamy chez Belfond. C'est presque fini, mais nous avons encore un peu de temps pour un plateau télé. Alors, mesdames, puisque Benoît en est exclu cette semaine, que nous conseillez-vous en plus des séries que nous avons déjà conseillées cette semaine, Ariane?
Alors, moi, je suis tombée par hasard, en flânant, je voulais dire, c'est un peu bizarre, sur Arte TV, sur une web-série documentaire qui s'appelle The Lost Swan, Les Oubliés de l'Histoire, où le titre est franglais, hein, et qui j'ai trouvé assez étonnante et du coup assez subjugante. Je précise que cette web-série documentaire, vous pouvez la consulter jusqu'en mai 2024, donc tout va bien, prenez votre temps. Mais voilà, alors pourquoi cette série m'a complètement surprise et subjuguée? Parce que c'est une série qui raconte des histoires vraies, mais avec des images d'archives détournées. Donc c'est un choix qui est très audacieux, très créatif aussi, et qui fonctionne parfaitement. Alors, je vous explique en gros, ce sont 10 épisodes de 6 minutes chacun, qui racontent les destins assez fulgurants de personnages peu connus du grand public, disons des figures oubliées ou minorées d'ailleurs, parfois.
C'est donc, le 20e siècle c'est
alors voilà, c'est donc fin 19e, début 20e, et c'est, je vous donne quelques exemples pour mieux situer. L'occasion pour nous donc est de redécouvrir les vies, par exemple, de l'aventurière, écrivaine, journaliste Isabelle Hébert. Il y a aussi l'artiste peintre Séraphine de Senlis ou le soldat déserteur et travesti Paul Grappe, dont Téchiné d'ailleurs récemment avait fait un film. Voilà. Donc on voit, c'est une belle bande d'oubliés hein, quand même, c'est pour le moins qu'on puisse dire. Et tous, effectivement, Xavier, ont vécu entre la fin du 19e et le début du 20e. Et c'est pas par hasard, parce que s'est-il passé à ce moment-là dans l'histoire? C'est la naissance du cinéma. Et précisément, cette série documentaire va réutiliser toutes ces images assez belles, noir et blanc, sauf que ce sont des images qui accompagnent mais qui n'illustrent pas. C'est-à-dire qu'elles ont été choisies pas pour leur vérité historique, mais pour la force poétique qu'elles dégagent. Alors, bien sûr, il y a toujours un lien entre ces archives et le sujet, hein, et de fait, elles semblent toujours parfaitement collées à ce qui nous est raconté, sauf qu'on n'est jamais dans l'illustration non plus, et je trouve que c'est ce léger décalage entre la fiction et la réalité, à la frontière de l'illusion, qui je trouve est totalement fascinant et surtout très très beau. Donc, si vous ajoutez à ça une musique électro assez hypnotique et également très décalée, et la voix off de Mathilde Hirsch, Mathilde Hirsch, c'est la créatrice, l'auteur et la réalisatrice. Vous conviendrez qu'il est temps de donner une seconde chance à ces oubliés.
The Lost Ones
sur Arte TV.
Christinas.
Eh bien, moi aussi, j'ai flâné et je suis tombée sur...
Mais vous n'avez rien à faire de la semaine,
voilà, sur un truc assez étonnant qui s'appelle Der Komme and Dag, The Day Will Come.
Réalisé pour la traduction, ouais, ça.
Réalisé par Jesper Nilsson, qui est le créateur des séries Borgen et The Killing, qui est donc au départ un long métrage sorti en 2016, récompensé comme le meilleur film danois, et qui est ensuite devenu une mini-série de 3 épisodes diffusée sur la chaîne danoise. Et ils ont changé les personnages, ils ont ajouté des personnages, ils ont transformé certaines parties de l'histoire, et on peut maintenant voir cette série sur Netflix, qui est inspirée d'un fait réel ayant eu lieu dans un orphelinat de Tisvilde, au nord de l'île de Seeland. Alors l'histoire commence dans les années 60 à Copenhague, où 2 frères, Eric et Elmer, 13 et 10 ans, sont élevés par leur mère célibataire, font les 400 coups. Celle-ci tombe malade, perd la garde de ses fils, et ils se retrouvent à l'orphelinat de Göteborg, dirigé par un principal complètement sadique et interprété par le très inquiétant Lars Mikkelsen, frère de Mats, est récompensé, évidemment, comme meilleur acteur dans un second rôle. Alors, pour les 2 garçons, l'Institut va très vite devenir un enfer, d'autant plus que les châtiments corporels et autres remis à niveau, qui avaient pourtant été bannis par le gouvernement danois, font toujours partie de l'appareil pédagogique. Seule une nouvelle institutrice, de Sophie Grebel, qui est vue dans The Killing, semble capable d'un peu de compassion. Alors, l'histoire est racontée en voix off, sur un mode assez dickensien, par un camarade orphelin. La série ne cache pas grand-chose des violences, abus sexuels et humiliations subies par les enfants, afin de mettre en évidence l'horreur de ces vies gâchées. Le récit met en parallèle l'enfermement de Göteborg, où le mode de vie est quasi moyenâgeux, et le vent de liberté qui en parallèle souffle à Copenhague, où les premières communautés hippies font leur apparition. Donc, tandis que l'un fomente la révolution, l'autre, le petit frère, projette de devenir astronaute et rêve devant l'immensité de l'espace que s'apprête à découvrir Armstrong. Donc, The Day Will Come brise le silence qui a longtemps régné sur les pratiques éducatives scandinaves. La série est remarquablement interprétée par des acteurs qui n'ont pas peur de jouer à fond des personnages abjects, des enfants qui apportent une poésie et une mélancolie touchantes. Cette dénonciation des abus en tout genre bénéficie d'une mise en scène et d'un sens du montage absolument solide.
The Day Will Come sur Netflix.
The Day Will Come sur Netflix. Je dirais âme sensible, s'abstenir.
Merci beaucoup Christine. Voilà, une heure en série, c'est fini. Merci beaucoup Ariane, Christine et Benoît d'y avoir participé. Je vous rappelle que donc au cours de cette émission, nous vous avons commandé ou pas Amour-Fou sur Arte, Hunters sur Amazon Prime et Visible Out on Television sur Apple TV. La semaine prochaine, nous évoquerons Dr. Arrow sur M6 et 000 sur Canal+. Je vous invite à retrouver également toute l'équipe demain soir du Masque et la Plume. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, bien évidemment. Vous pouvez voter pour vos séries préférées. Il suffit de nous envoyer le titre de la série française que vous adorez, la série non française que vous adorez également. N'hésitez pas aussi à nous écrire simplement. C'est toujours un plaisir de vous lire. Une heure en série cette semaine a été réalisée par Marie-Yannick Rimbaud. La programmation musicale assurée par Muriel Pérez, préparée avec Amel Caldi, et à la technique cette semaine, Elisabeth Collet.